J'ai commencé ma carrière en 1964 de chercheur à l'INRA sur, sur un thème qui m'avait été donné par Bruxelles. J'étais ingénieur de recherche et le thème c'était trouver des moyens techniques pour améliorer la multiplication, pour intensifier la multiplication des vaches de haute qualité laitière. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, de 64 à 75 à peu près, et j'avais imaginé comme méthode de faire des mères porteuses de vaches, c'est-à-dire de faire superovuler ces vaches de haute qualité laitière, de les inséminer avec du sperme de taureaux pères de vaches de haute qualité laitière, puisque tout ça, ça vient aussi du mâle, de récupérer les embryons dans l'utérus et de les transplanter un par un dans des génisses ordinaires qui assumeraient pendant 9 mois la fonction de gestation pour autrui dont on parle aujourd'hui. Donc ça a fini par marcher. C'était avec des méthodes non chirurgicales ou semi-chirurgicales. Je faisais ça tout seul dans les champs. Ça a fini par marcher en 1972. Et à ce moment-là, je me suis interrogé. Einstein dit souvent que le chercheur est comme une taupe dans sa taupinière. Donc je suis sorti de la taupinière, j'ai regardé dehors, mais je me suis dit, c'est idiot. On m'avait donné ce truc-là c'est comme une priorité, alors que depuis, l'Europe, les mêmes que ceux qui m'ont payé, font des quotas laitiers, ont imposé des quotas laitiers parce qu'il y a trop de lait. On ne sait pas quoi en faire, on le transforme en beurre, on l'envoie chez les Russes. Bon, bref, c'était un truc complètement aberrant. Donc j'ai commencé à prendre mes distances en me demandant, mais qui décidait des projets de recherche? Où était l'intelligence au pouvoir? Et quel était le rôle du chercheur dans une société dont je suis devenu un peu conscient? À ce moment-là, un patron hospitalier m'a demandé de monter un labo pour faire de la recherche sur la reproduction humaine à l'hôpital. Donc j'en ai profité pour m'évader de l'INRA. Et en me disant, à l'hôpital, c'est pour la santé des gens, c'est formidable, c'est autre chose, c'est la générosité, c'est... Bon, et j'ai commencé à travailler en recherche sur les gamètes humains, et puis très vite est venue la nouvelle que les Anglais attendaient un bébé éprouvette, et j'ai eu des pressions de mes collègues gynécologues très fortes pour m'y mettre. Bon, j'ai trouvé que c'était un truc amusant. On n'y croyait pas trop, à vrai dire, on pensait qu'Edouard se racontait des histoires. Bon. En réalité, c'était vrai. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Et puis le premier bébé éprouvette français, Amandine, est né en 1982. Et à ce moment-là, il m'est arrivé la même chose qu'avec les vaches. Je me suis aperçu qu'il y avait toujours un maquignon derrière un chercheur qui trouve et qu'il y avait des intérêts particuliers qui se développaient et qu'il n'y avait pas eu d'analyse de tout ça, pas de réflexion. Bref, j'ai publié en 86 un livre qui s'appelle « L'œuf transparent » dans lequel je disais, bon, d'une part je racontais avec un peu d'humour cette aventure, qui était quand même une aventure intéressante, et puis il s'appelait l'œuf transparent parce que je disais, on voit dans l'œuf avec 9 mois d'avance, et on va pouvoir détecter des caractères génétiques qui permettront de trier parmi les embryons qu'on a, puisqu'on en a toujours plusieurs pour un couple, détecter celui qui est le plus apte, celui qui mérite le mieux d'être transformé en enfant en le mettant dans l'utérus de la mère. Donc on m'a ri au nez en disant c'est pas possible techniquement, ça se fera jamais, et puis les médecins ont trop d'éthique pour faire une chose aussi horrible. Bon, c'est arrivé, les Anglais, toujours eux, on l'a inventé en 1990, donc 4 ans après mon bouquin, et la première loi française de bioéthique l'a autorisé en 1994. Ça s'appelle le DPI, diagnostic pré-implantatoire. Et ça ouvrait la porte de la fécondation in vitro, non plus seulement aux couples stériles comme avant, mais à des couples normaux, fertiles, mais qui portaient un risque génétique de transmettre une pathologie, laquelle on pouvait dépister éventuellement dans l'embryon, grâce à la fécondation in vitro. Donc des gens venaient faire une fécondation in vitro dans ce but, de dépister. Ils auraient pu faire l'enfant tout seul. Donc moi, j'ai pensé que c'est un truc qu'on ne pourrait pas arrêter, c'était une machine infernale, parce que la loi parlait d'une maladie particulièrement grave, ça veut rien dire, et l'avenir l'a montré, puisque aujourd'hui, on peut par exemple dépister le sexe aux États-Unis, ça se fait couramment en fécondation in vitro, c'est pas une maladie, et qu'en Angleterre, on peut dépister des enfants qui ont un risque de strabisme parce que les parents louchent. Donc on a trouvé un gène en liaison avec ça. Il y a des gens qui vont faire une FIV pour éviter d'avoir un enfant qui louche. Alors ça montre. Et puis il y a d'autres dérives. Il y en a un peu en France, beaucoup moins qu'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'on a quand même des systèmes de contrôle un peu plus précis, mais on n'est jamais qu'en retard de quelques années. Donc j'ai écrit pas mal de bouquins, 25, 26 je crois, ce qui sont souvent des bouquins critiques sur la médecine, sur la technoscience, parce que j'ai élargi quand même mes centres d'intérêt. En 2000, avec quelques collègues chercheurs, j'ai créé l'association Sciences Citoyennes. Donc là j'ai quelques petits prospectus qui vous montreront ce que c'est. Le but étant de mettre la science en démocratie, avec défense des lanceurs d'alerte, réforme de l'expertise, introduction des citoyens dans les programmes de recherche, plein de choses audacieuses qui avancent très doucement, qui avancent pas vraiment d'ailleurs, mais de temps en temps, on a des satisfactions. Donc aujourd'hui, je me consacre beaucoup à cette association, puis de temps en temps, j'écris des articles et parfois un livre, et voilà. Donc je vais vous parler aujourd'hui du transhumanisme, qui est un mot nouveau, on peut dire, en France. Encore plein de gens, j'ai remarqué, n'ont jamais entendu ce mot-là, y compris des gens qui lisent des livres, n'ont pas encore entendu ce mot, mais ça vient quand même vite. Hein. Il y a 2 ans, c'était complètement inconnu, ça commence à gagner un peu. Ben, quel est le but du transhumanisme? C'est de fabriquer un homme augmenté. Augmenté entre guillemets, parce qu'on verra qu'on pourrait aussi le qualifier de diminué parfois. Augmenté, ça veut dire quoi? Qu'il serait de meilleure santé, qu'il aurait des performances inédites dans l'espèce humaine, et qu'il aurait une durée de vie augmentée jusqu'à éventuellement l'immortalité. Donc, en fait, c'est une vieille idéologie, c'est l'idéologie du progrès, et en particulier la médecine travaille là-dessus, améliorer l'homme, mais il y a toute la différence à faire entre soigner et augmenter. C'est-à-dire quand on a affaire à quelqu'un d'homme malade, et qu'on le soigne, ça n'est pas du transhumanisme. Il n'empêche que ça peut le devenir. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui en train de mettre au point sur des gens invalides des techniques qui leur permettent théoriquement de restituer la normalité, mais qui vont quelquefois au-delà de la normalité. C'est le cas, par exemple, de la vue. On peut augmenter l'acuité visuelle de personnes quasiment aveugles jusqu'à ce qu'elles voient mieux que n'importe qui ici. Donc là, on rentre dans quelque chose d'autre et on ne voit pas bien où on peut mettre la limite entre le soin et l'augmentation. Donc je dis, c'est une vieille idéologie, hein, des fantasmes archaïques d'être immortel, d'être puissant, le surhomme, enfin tous ces trucs-là, ça existe depuis longtemps. Mais c'est arrivé maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a eu la rencontre de ces fameuses techniques qu'on appelle les NBIC, les techniques de neurophysiologie, anatomie, de génétique, de les nanotechnologies, d'informatique, qui, combinés ensemble, permettent à la technoscience d'avoir une puissance absolument extraordinaire. Et on peut dire qu'en quelques dizaines d'années sont apparues des possibilités qui, avant, étaient seulement des fantasmes. Donc, les fantasmes immémoriaux, donc, tels que surhomme ou immortalité, surgissent avec une part de crédibilité, et tout ça, bien sûr, dans le cadre du marché, dans le cadre du néolibéralisme et de la compétitivité, y compris entre les États, pas seulement entre les personnes ou entre les entreprises, mais entre les États. Donc une concurrence qui fait qu'on accélère sans arrêt ce processus et qui va très loin. Alors c'est né dans la Silicon Valley, donc en Californie, dans les années 60. Finalement, ce transhumanisme, il est né par la rencontre de gens qui n'étaient pas du tout destinés à ça, des marginaux, des hippies, des New Age, qui étaient des pacifistes, des mystiques, des libertaires, et qui ont rencontré les informaticiens qui s'installaient dans la Silicon Valley dans les années 60, avec un... Je veux dire que ces gens, ces hippies, avaient des rêves d'émancipation du pouvoir étatique et pensaient que l'informatique allait leur permettre de s'émanciper, de gagner en liberté, d'accéder à des connaissances libres partagées par tout le monde et d'avoir une communication entre eux et avec le monde à l'infini grâce à l'informatique qui se développait. Donc il y avait aussi un peu de mystique très nettement, et puis il y avait aussi c'était bien sûr dans l'après-guerre, il y avait aussi la crainte du retour de la guerre, et ils pensaient qu'avec ça, et l'information que tous les gens pourraient acquérir grâce à l'informatique, eh bien, on pourrait éviter des catastrophes sociologiques. Donc, évidemment, les multinationales l'ont récupéré, celles qu'on appelle aujourd'hui le GAFA, les GAFA qui étaient naissantes, hein, les Google, Facebook, Apple et autres, l'armée américaine aussi, a investi beaucoup dans le transhumanisme, et la compétition est devenue internationale il y a une vingtaine d'années à peu près, les Américains ayant une hégémonie, il n'y a aucun doute, mais ça a gagné l'Europe et l'Asie depuis 15 ou 20 ans, parce qu'aujourd'hui ça fait partie des thèmes de rivalité entre les pays. Alors il y a énormément de moyens qui sont mis dans les recherches transhumanistes, en particulier dans la Silicon Valley, mais aussi en Chine, en Europe et en France. On ne le dit pas, mais je l'évoquerai tout à l'heure. En France, on parle... C'est un peu pour ça qu'on a fait ce bouquin, dans lequel... oui, j'ai oublié de dire que c'est ce bouquin-là. Dans lequel on a fait des enquêtes dans des laboratoires qui montrent que les chercheurs innocents qui connaissent même pas le mot transhumaniste sont en fait en plein de travailler là-dessus. Hein, quand ils font de la biologie synthétique en modifiant l'ADN, par exemple... on voit bien où vont être les débouchés. Or, la réflexion n'a pas lieu. On fait des recherches dans tous les pays, alors de façon innocente ou avouée. Aux États-Unis, ils sont complètement décomplexés, les transhumanistes, ils avouent, ils veulent changer l'humanité parce que l'humanité vaut pas un clou. L'homme est pourri, il est minable, il est pas, il vit pas assez longtemps, il est tout le temps malade, il est pas intelligent. On va changer tout ça. Nous, en Europe, on ne dit pas une chose pareille, mais on fait à peu près la même chose qu'eux, en plus petit, parce qu'on n'a pas les moyens, mais c'est en train de venir. Donc, je dis beaucoup d'investissements. J'évoquais Google, mais il n'y a pas que. D'énormes, toutes les multinationales, l'armée américaine met énormément de moyens là-dedans aussi. Les meilleurs chercheurs sont dépistés et réquisitionnés pour aller là-bas. Ils ont vraiment l'élite de la recherche en biologie, en informatique, voilà. Et donc il y a une accélération de ce processus, avec une accélération des investissements, c'est-à-dire de plus en plus d'innovations qui sortent des laboratoires. Donc l'idéologie annoncée aux États-Unis, c'est on va vers le post-humain, c'est-à-dire un individu supérieur qui est augmenté, donc qui succédera à l'humain minable, sans intérêt, que nous sommes aujourd'hui. On va s'affranchir ainsi de la condition humaine. On va fusionner avec la machine, donc je vais reprendre un petit peu ces thèmes-là, fusionner avec la machine pour gagner de la puissance. On va fabriquer des intelligences artificielles capables d'auto-évolution, et là il nomme ça le moment de la singularité, c'est le moment où l'intelligence artificielle va être capable de s'émanciper complètement du pouvoir du chercheur ou de l'homme, on peut dire, pour se multiplier, pour gagner encore en intelligence, donc va devenir autonome. Donc ce serait la singularité, c'est le Ray Kurzweil, qui est un des transhumanistes célèbres de la Silicon Valley, qui est payé par Google pour travailler là-dessus. Voilà. Alors, en France, les finalités seraient plutôt médicales. C'est comme ça qu'on présente. Enfin, c'est pas que médical déjà, puisqu'on travaille sur un tas de sujets. Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de réflexions qui sont menées par ce gouvernement pour l'intelligence artificielle en particulier. Mais c'est toujours au service de l'homme et pas pour changer l'homme. Je pense que ça, c'est une précaution. Ça me fait un peu penser au... quand on a inventé le DPI dont je parlais tout à l'heure, le tri des embryons, les Anglais ont fait carrément une liste des pathologies qui relevaient du tri des embryons. On peut venir à l'hôpital faire une fécondation in vitro pour trier ces embryons dans tel cas. Alors au début, ils avaient une cinquantaine de cas. Maintenant, ils en sont à peu près à 300. Chez nous, c'est pareil. Hein. On avait aussi une cinquantaine de cas et on en est à 250 à peu près. Simplement, nous, on n'a pas de liste. Parce que l'éthique française dit assez justement qu'on ne peut pas mettre à l'index des individus déjà nés qui sont dans la société, qui souffrent de handicap et qu'on aurait pu tuer dans l'œuf. Donc on ne peut pas faire une liste. En revanche, on peut faire un bilan de ce qui s'est fait dans l'année en fonction des autorisations données par les comités d'éthique qui travaillent là-dessus et qui reçoivent les dossiers. Et alors on fait les listes tous les ans et l'agence de biomédecine publie tous les ans la liste des indications qui augmente de 10 à 20% à peu près d'indications médicales pour trier les embryons chaque année. Donc on augmente, on augmente. Là on a à peu près rattrapé les autres pays maintenant. Mais tout ça, Évidemment, nous, on ne fait pas d'eugénisme, donc on ne fait pas de lisse, parce que ce ne serait pas bien. Alors, je dis, c'est un peu la même chose qui arrive avec... avec le transhumanisme, là, on n'en parle pas ouvertement, et surtout, on n'analyse pas quelles sont les conséquences. Les Américains ne l'analysent pas beaucoup. Bon, ils ont aussi des commissions qui réfléchissent. Ils ont des chercheurs, ils ont des juristes, bon, qui réfléchissent là-dessus, qui écrivent plein d'articles, mais tout le monde s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a pas force de loi, puisqu'aux États-Unis, la loi, c'est essentiellement de priver d'argent les laboratoires qui feraient des choses interdites. Par exemple, du clonage humain, c'est interdit encore. Depuis le mouton, le premier mouton cloné dans les années 90, c'est toujours interdit dans la plupart des pays, mais simplement en France c'est carrément interdit, c'est-à-dire on peut pas faire cette recherche. Aux États-Unis on n'a pas d'argent pour en faire, ce qui veut dire qu'on peut la faire dans des laboratoires privés ou avec des moyens qui sont pas les moyens d'État. Donc vous voyez, et c'est comme ça pour énormément de techniques. Le transhumanisme, en fait, c'est une somme de promesses que, dans ce livre-là, on appelle, c'est le sous-titre, hein, « Les promesses suicidaires des transhumanistes », qu'on appelle suicidaires, qu'on peut qualifier de suicidaires, je dirais pourquoi, et je vais en évoquer quelques-unes. D'abord, au niveau de la santé, parce que c'est ça qui est un peu le moteur. C'est là que les gens sont plus réceptifs, il n'y a pas de résistance de la société, on va améliorer votre santé. Alors, en quoi ça consiste ? On peut classer un peu différents types d'interventions. Donc, d'abord, des dispositifs électroniques de contrôle du corps, qu'on peut appeler de l'auto-quantification. Par exemple, vous allez avoir une puce électronique qui va mesurer votre glycémie. Vous allez avoir votre tension qui va être enregistrée en permanence. Vous allez pouvoir mesurer le nombre de pas que vous faites dans la journée. Tout ça est éventuellement transmis à un laboratoire médical qui peut vous dire « attention, il y a un problème là ». Bon. Donc c'est donc une surveillance permanente des individus qui se répand de plus en plus, y compris en France. Et est-ce que ça assure la santé ? Ça, c'est pas encore démontré. En revanche, ça permet certainement l'angoisse en continu, puisque on est sans arrêt amené à vérifier que la machine, que la puce fonctionne, et on est amené à analyser ses résultats, à les recevoir. Donc on se met sous autocontrôle, sans arrêt. C'est quelque chose qui doit conduire à l'érosion des sens habituels qu'on a d'être au monde, et qui est peut-être pas complètement positif, sauf dans des cas, c'est toujours pareil. Toutes ces technologies se réclament toujours de cas extrêmes. Donc il y a des cas où c'est vrai, un diabétique très très grave, il vaut mieux qu'il ait un appareil qui mesure sa glycémie en permanence. Mais ça concerne très très peu de gens. Or, on voit que ces dispositifs, pour des raisons commerciales, parce qu'il y a des gens qui les vendent, et pour des raisons idéologiques, parce qu'il semble qu'effectivement, l'organisation de nos sociétés tend à nous mettre de plus en plus dans un système de surveillance. Là, ça rappelle des bouquins célèbres. Je pense à 1984, je pense à Orwell. Donc Orwell ou Huxley, par exemple, avaient déjà décrit un peu le monde dans lequel on est en train de commencer à vivre. Donc ça, c'est les dispositifs de contrôle du corps. Il y a les organes, carrément, les organes artificiels. Vous savez, on peut aujourd'hui fabriquer des cœurs, des poumons, des reins, un œil, avec des morceaux synthétiques, avec des pièces. Donc c'est des organes artificiels qu'on pourra, paraît-il, fabriquer bientôt. Il y a déjà des essais sur imprimante 3D. Donc l'idée, c'est même que chacun puisse se fabriquer son cœur ou son machin à la demande. Je vois pas bien comment ce serait possible, parce qu'il faut quand même le mettre en place après. Mais bon, il y a aussi des organes qui sont fabriqués chez l'animal, c'est-à-dire que on greffe des cellules souches chez des cochons en général, qui fabriquent les organes contenant beaucoup de cellules humaines et qui vont donc être compatibles avec un individu malade. Donc on peut fabriquer des organes biologiques ou des organes synthétiques. Quel est le but ? Est-ce que c'est d'avoir un corps inusable par substitution de toutes les pièces progressivement, un peu comme les bagnoles, une vieille voiture, je pense à Cuba par exemple, où ils ont toujours des voitures américaines des années 50 qui roulent, parce que de temps en temps ils changent des pièces qu'ils fabriquent eux-mêmes, mais ça marche, il y a un moment où ça s'use quand même. Donc je pense que ce système-là a une limite, et là ça montre aussi comment différencier la réparation et l'augmentation que j'évoquais tout à l'heure? Est-ce que vraiment on répare l'individu ou est-ce qu'on l'augmente parce qu'on va lui permettre de vivre plus longtemps malgré tout? Et peut-être qu'on va lui mettre, comme je le disais pour la vue, des organes artificiels qui auront une qualité, une acuité plus importante que les organes naturels. Donc on est sans arrêt à la fracture de ça. Toujours au niveau de la santé, il y a ces fameux implants cérébraux dont on parle, qui permettraient, en stimulant le cerveau, de lutter contre la dépression, contre la fatigue. Par exemple, il semble qu'aux États-Unis, aujourd'hui, beaucoup d'étudiants se stimulent eux-mêmes le cerveau. Alors, il y a des recettes sur Internet. On vous dit où il faut mettre l'électrode, quelle puissance faut lui donner, et vous stimulez le cerveau. Et apparemment, il semble que c'est vérifié, ça augmente les capacités d'attention, de lutte contre la fatigue. Ça éveille l'esprit davantage et ça permet une réussite aux examens. Dans quel état on sort quand on a fait ça quelques fois, c'est une autre affaire. D'autant que ce qui est grave là, je pense que ça c'est important, on en parlera aussi au niveau de la génétique, mais le cerveau comme le génome, c'est des ensembles très complexes et que les spécialistes qui veulent tout modifier sont en train de traiter comme une machine simple. Le cerveau, ils vous disent, le centre de tel truc est là, on va mettre une électrode là, on va stimuler. Mais sans imaginer que quand on stimule là, on va modifier l'ensemble de la réponse du cerveau. On va déséquilibrer la machine cérébrale. C'est pareil pour le génome avec les OGM. Quand on fabrique un OGM, en fait, on déséquilibre complètement le génome du support, que ce soit un animal ou une plante. Et ça, c'est des effets que ne veulent pas voir les industriels. Parce qu'évidemment, ça dirait que leur recherche est absurde et qu'on ne peut pas maîtriser, ou en tout cas avant quelques millénaires, on ne peut pas maîtriser ce qu'on est en train de faire. Autrement dit, on joue à l'apprenti sorcier tout le temps. Alors même si on obtient un effet immédiat et à court terme, c'est quelque chose qui est évidemment dangereux. Par exemple, pour ce qui est des stimulations du cerveau dont je parlais, pour être davantage en forme, passer un examen, il a été constaté aux États-Unis que ça déclenche, au bout d'un moment, des crises d'épilepsie répétées qu'on ne peut pas arrêter. Donc ça a des effets secondaires, sans aucun doute. Un autre usage du transhumanisme ou des techniques transhumanistes dans la santé, c'est la médecine personnalisée. Donc il est question de plus en plus de non pas de soigner les gens avec la même pilule pour tout le monde, mais d'avoir des traitements qui soient appliqués à chacun en fonction de son génome. Pour ça, il faut analyser les génomes. Et le but, c'est d'avoir les génomes d'un maximum d'individus qu'on va utiliser. Pour le moment, il y en a déjà plusieurs centaines de milliers qui ont été séquencés en Grande-Bretagne et aux États-Unis, plusieurs centaines de milliers. En France, on fait une entrée timide dans le système depuis 2016, où la ministre de la Santé a décidé de construire 12 plateformes de séquençage à haut débit pour séquencer le génome de 18 000 personnes chaque année. Ceci jusqu'en 2026, quelque chose comme ça. Ce qui ne nous fera pas grand-chose, peut-être 100 000 génomes. On sera bien à la traîne des autres. Mais pourquoi on fait ça? C'est simplement pour mettre en relation ce qu'on voit dans le génome et la vie des individus, c'est-à-dire le génotype et le phénotype. Ceci sans rien comprendre du passage de l'un à l'autre. Ça, c'était une des caractéristiques de la science moderne. C'est-à-dire, on ne cherche plus à comprendre comment, par exemple, telle particularité du génome va permettre la fabrication de telle protéine qui va agir sur tel truc. Non, on s'en fout de ça. Ce qu'on dit, c'est que statistiquement, quand vous avez un génome où on trouve telle configuration, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir, ou beaucoup moins de chances d'avoir telle pathologie, par exemple. Donc c'est jamais que des considérations statistiques, et la statistique aujourd'hui est à la pointe de la médecine grâce au big data et à l'informatique qui est de plus en plus développée au mépris de ce qu'on appelait la médecine avant, c'est-à-dire de chercher à comprendre pour soigner les patients. Mais cette médecine personnalisée va se développer. Il y a évidemment un marché, il y a beaucoup d'industriels intéressés. Et puis il y a une idéologie derrière ça, c'est d'abord que nous sommes tous le résultat de notre génome, ce qui est quand même un peu abusif. Et que donc on va pouvoir guérir chacun ou l'empêcher d'être malade, parce que souvent on dit que c'est préventif. Donc on va l'empêcher d'être malade. Simplement, il faut poser la question, quand on a trouvé, par exemple, un gène, ou des gènes, parce que De plus en plus, les maladies qu'on découvre, c'est pas comme celles qu'on connaissait avant. La mucoviscidose, les myopathies, c'est, on sait quel gène, et puis la réponse est assez simple, et on connaît même la chaîne métabolique. Là, maintenant, non seulement, comme je le disais, on comprend rien, mais ça implique énormément de gènes. Donc c'est quelque chose de très complexe, qu'on ne cherche pas vraiment à comprendre, parce que c'est trop compliqué, on perdrait du temps, c'est pas rentable, mais qu'on cherche à maîtriser, simplement en ayant le début et la fin. Comment analyser le génome et comment on va réagir? Alors c'est toute la question. Comment on va réagir? Si vous trouvez chez quelqu'un des gènes qui disent qu'il a plus de chances de mourir d'un cancer du cerveau, par exemple, ou d'être Alzheimer, ou des choses, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a rien. Il y a rien. C'est là qu'on se moque du monde. Il n'y a rien. Il n'y a pas de traitement. Non, il y a très très peu de maladies génétiques qui ont des traitements. Et donc, de rechercher chez tout le monde les gènes de risque, parce que c'est ça, c'est les gènes de risque de pathologie que nous avons tous. Hein. Nous en avons, d'après Arnold Munich, un généticien qui travaille là-dessus, on en a tous une centaine de gènes pour des maladies graves. On a tous des gènes de facteurs de risque de maladies graves, on en a une centaine chacun. Hein, en gros. Donc, d'arriver à démontrer lesquels on a précisément, ça permet pas de soigner les gens. La thérapie génique ne fonctionne pas vraiment. On pourra y revenir si vous voulez dans la discussion. Mais elle ne fonctionne en gros que sur les cellules sanguines et parfois. Donc, c'est quand même pas la solution. Et finalement, ça va mener à montrer aux gens qu'ils sont tous à risque et à transformer tous les individus, tous les citoyens, en patients potentiels, en attente d'un traitement qui le plus souvent n'existe pas, c'est-à-dire à générer des angoisses, mais ça fait marcher tout un business. Donc, parce que les bien portants, qui sont quand même la majorité des gens jusque-là, vont devenir des patients qui s'ignoraient avant qu'on ait démontré qu'ils avaient un risque. Donc ils deviennent en réalité des clients. Voilà. Bon, pour la santé, c'est ce que je dirais pour le moment. La longévité, qui n'est plus tout à fait une affaire de santé, bien qu'on peut dire, en maintenant les gens en bonne santé éternellement, ils mourront jamais, sauf en passant sous l'autobus, parce que ça existe quand même. Alors là, il y a des gens comme, il y a un Britannique qui justement est spécialisé là-dedans, un transhumaniste, s'appelle Aubrey de Grey, qui parle de résoudre la mort. C'est joli comme expression. Et il dit qu'il y a un véritable scandale aujourd'hui, c'est que le vieillissement tue 100 000 personnes par jour. Je suis content de vous entendre rire parce que il dit ça sans rire du tout. Il y a un autre type qui s'appelle Didier Courneul, c'est un Belge, qui est le président ou le vice-président maintenant de l'association Technoprog. C'est les transhumanistes de langue française. Donc on le voit partout quand vous avez un transhumaniste, en général c'est lui. Il est assez con, faut dire. Hein. Comme adversaire, il est facile. Eh bien lui, il vous dit, il y a un scandale, il dit à peu près pareil qu'Aubrey de Grey, il dit... 95% des gens aujourd'hui meurent de vieillesse. C'est scandaleux. Voilà. Donc, et puis il y a le Laurent Alexandre, que vous connaissez peut-être si vous lisez Le Monde, puisqu'il est chroniqueur santé au journal Le Monde, qui est un transhumaniste qui se cache, mais en fait tout son discours est là-dedans, et qui dit que l'homme qui vivra plusieurs siècles est déjà né. Il le déclare plusieurs fois. Donc il ne dit pas l'homme immortel, mais plusieurs siècles, il est déjà né. Donc vous voyez, c'est pour bientôt. Voilà où on en est. On est dans une idéologie, vraiment, c'est l'aventure totale, puisque finalement, il y a bien des expériences, je vais en évoquer un peu, qui montrent qu'on est capable d'agir un peu sur la durée de vie, mais on est très très loin d'obtenir une durée de vie de plusieurs siècles, surtout en bonne santé, pour le genre humain. Et il n'empêche que les populations dans tous les pays sont sensibles à cette promesse-là de pas mourir, tout le monde, et surtout quand on vieillit. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien, ça repose sur les mythes les plus anciens, et ça s'oppose à un destin inexorable. Donc c'est vraiment la victoire de l'homme sur la nature, sur un destin que Dieu aurait donné, et c'est quelque chose qui marche bien. Alors sur quoi ça repose pour le moment ? Bon, j'évoquerai chez la souris, on a trouvé des gènes, qu'on a appelés un peu vite des gènes de longévité, qui sont sensibles à une molécule chimique, c'est la rapamycine. Quand on donne cette molécule chimique à des souris, elles vivent plus longtemps. On augmente la durée de vie de quelques, je sais pas, de 20-30% à peu près. Donc c'est quand même assez considérable. Mais ce qu'on dit pas trop, c'est qu'en général, elles ont des pathologies nouvelles qui apparaissent. De même, il y a cette fameuse histoire des télomérases, c'est-à-dire des extrémités chromosomiques qui se réduisent avec l'âge, avec le vieillissement, et on peut empêcher ça, les télomères, donc c'est les extrémités des chromosomes, on peut empêcher ça avec l'enzyme télomérase, on peut empêcher que les télomères régressent, et ça, ça a été fait aussi chez la souris. Et là, on obtiendrait un effet de rajeunissement carrément, c'est-à-dire pas d'allongement de durée de vie, mais de rajeunissement. Alors c'est tous les fantasmes, là, rajeunir c'est extraordinaire. Simplement, on a beaucoup de cancers chez ces bêtes-là. Ça, on ne le dit pas trop. Donc on voit bien que là encore, on joue sur un système complexe, on appuie à un côté, et puis ça répond de l'autre, et on ne regarde que ce qu'on veut bien voir. Il y a des choses plus simples, c'est la restriction calorique, qu'on appelle le jeûne, traditionnellement, c'est pas une manipulation génétique ou neurologique, c'est la restriction calorique, eh bien, ça active un gène qui ralentit le vieillissement. Donc la diète est aussi une façon, apparemment, d'augmenter la durée de vie. Alors est-ce que la diète est une technique transhumaniste? C'est une vraie question. Moi, je dirais que, étant donné qu'elle ne mobilise pas la technoscience, qu'elle est simplement une question d'hygiène sociale, et qu'elle se pratique dans certaines, chez les Indiens par exemple, chez les Hindous, elle se pratique depuis très longtemps, on pourrait dire que c'est de l'hygiénisme. Et pas du transhumanisme. Mais l'hygiénisme, c'est vrai, a été aussi un des noms qu'on a donné au transhumanisme au XIXe siècle. C'est-à-dire à vouloir améliorer les conditions de vie, pas seulement l'individu, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas de génétique. Donc on ne pouvait que changer les conditions d'environnement d'un individu, et souvent ça passait par ce qu'on appelait l'hygiénisme, qui n'est pas seulement l'hygiène, qui est aussi les régimes alimentaires, la façon de s'habiller, bon, plein de choses, le sport, tout ça. Donc on est plutôt dans ce système-là, qui est quand même assez traditionnel. On n'est pas, c'est pas la même chose que d'être à la diète et de bouffer de la rapamycine pour ne pas vieillir trop. Donc, à côté de ces travaux chez la souris, il y a des études qui sont menées chez l'homme. Alors, c'est des études, évidemment, sur dossier. On fait pas des essais en administrant des molécules à l'homme. Mais il y a des études d'hérédité de la longévité. C'est-à-dire qu'on va rechercher, encore une fois, dans le génome, des gens qui ont vécu longtemps, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? À vrai dire, on ne trouve pas grand-chose. Hein. Mais pour le moment, il y a un nommé Craig Venter, qui est un biologiste très connu aux États-Unis, qui a analysé, il prétend qu'il aura analysé 1 million de génomes en 2020 sur cette base-là, la longévité, telle qu'on peut, on pourrait penser qu'elle a une origine génétique. Et puis, il y a des trucs quand même qui se font chez l'animal, et apparemment qui commence à se faire chez l'homme, même si c'est un peu clandestin, c'est la transfusion de sang de jeunes, de personnes plus jeunes. Alors ça a été testé d'abord chez l'animal, et aujourd'hui il semble qu'il y ait des gens qui payent très cher pour se faire transfuser du sang humain, du sang de jeunes. Alors vous voyez, ça peut aussi poser très vite des problèmes, parce qu'on va trouver ce sang où? Et là, on voit bien la différence, effectivement, de ceux qui vont en bénéficier et de ceux qui vont leur servir d'alimentation en sang. Mais c'est quelque chose qui existe. Toujours au niveau de la longévité, on pourrait dire, tout bêtement, il y a le téléchargement du cerveau sur l'ordinateur. Il y a des informaticiens qui prétendent qu'ils vont nous rendre éternels sans s'occuper de biologie, cette fois. Mais en téléchargeant le contenu de votre cerveau sur l'ordinateur, dans 1000 ans, on pourra le ressortir. Donc ils estiment que vous êtes immortel, puisque votre cerveau a été mis en bibliothèque, on pourrait dire. Bon, c'est une façon de voir. Et puis, en attendant tous les miracles scientifiques promis, il y a la cryogénisation, c'est-à-dire la congélation des corps. L'idée, c'est qu'on n'est pas au point pour le moment. Il y a des grands progrès, paraît-il, mais on n'est pas au point. Et il faut attendre le moment où on va être au point. Alors, ça ne nous empêchera pas de mourir, mais si on nous cryogénise, si on nous congèle, eh bien, on a une chance que dans un siècle, dans deux siècles, dans trois siècles, il y ait des méthodes qui permettront de devenir immortels. Donc, à ce moment-là, on nous décongélera. Alors, je dois dire que moi qui ai travaillé sur la congélation, mais seulement de l'embryon, de l'ovule, ça me fait un peu rire, parce qu'un embryon humain, par exemple, à quelques cellules, c'est à peu près homogène, c'est les mêmes types de cellules. Mais quand vous avez affaire à un tissu, c'est plus compliqué, un organe encore plus, et un individu complet. Alors là, vous avez affaire à des cellules complètement différentes qui ont des exigences physiques de comment on congèle cette cellule pour qu'elle n'éclate pas, pour qu'elle soit conservée dans de bonnes conditions. Les paramètres changent avec tous les types cellulaires. Donc c'est pour ça que la congélation d'organes, elle se fait maintenant, mais elle n'est pas simple. Mais encore dans un organe, on n'a pas tous les types cellulaires. Mais congeler un individu entier, ça paraît vraiment se moquer du monde. Ça coûte très cher, et après, il faut nourrir la machine en azote liquide, et donc il faut prendre un abonnement que les héritiers devront payer régulièrement pendant quelques siècles, apparemment, avec, au bout du compte, à peu près aucune chance qu'il y ait un résultat. Donc voilà le genre. Alors ça, je dis ça coûte cher, ça coûte 200 000 dollars aux États-Unis, puisque ça se fait, hein, il y a déjà des centaines de personnes, mais la plupart des gens préfèrent ne congeler que la tête pour 20 000 dollars, en disant c'est déjà pas mal. Voilà. Mais vous voyez que là, les deux thèmes que je viens d'évoquer brièvement, la santé et la longévité, ça parle à tout le monde, parce que c'est les entrées légitimes du transhumanisme dans la vie quotidienne et dans la vie existentielle. On va tous être malades, on va tous crever, et depuis toujours, on a un peu peur de ça, et voilà des sorciers qui vont nous amener des solutions. Et le transhumanisme avance aussi par là. Le transhumanisme, c'est pas quelque chose... moi, je l'ai comparé à un terrorisme dans ce livre, et ça m'a déjà été reproché par les transhumanistes, que c'est une forme de terrorisme, et c'est un terrorisme qui se débrouille pour avoir l'acquiescement de ses sujets. C'est pas quelqu'un qui vient avec une mitraillette qui va vous obliger à quelque chose, mais on vous impose des dispositifs. Tout à l'heure, je dirai un mot du téléphone portable, parce que c'est une façon aussi de modifier complètement notre façon de vivre, sans avoir l'air d'y toucher. Autre chose maintenant, après la santé et la longévité, il faut évoquer un peu la connexion à des machines, l'intelligence artificielle et les cyborgs. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse intelligence artificielle? Moi, ça me met en colère chaque fois que j'entends. L'intelligence, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Ça fonctionne absolument pas comme une intelligence. C'est des machines à calculer qui sont ultra rapides, qui sont sophistiquées, beaucoup plus performantes que nous, il n'y a aucun doute, mais c'est des machines à calculer avec une mémoire et qui peuvent donner une solution qu'on leur avait appris avant. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que on parle beaucoup du QI, le quotient intellectuel, qui est très critiqué, mais qui sert encore d'étalon pour mesurer l'intelligence de nos enfants. Mais j'ai jamais vu qu'on ait passé une intelligence artificielle à une épreuve de QI. Ce serait quand même rigolo, puisque ce sont les mêmes qui ont une conception très logique, très simpliste de l'intelligence, qui fabrique ces machines-là et qui défendent le système du QI. Pourquoi on ne nous dit pas quel est le QI de la machine? Je crois qu'on pourrait fabriquer une machine qui est un QI extraordinaire, mais elle n'aurait que ça. Elle serait incapable de jouer au Go ou aux échecs comme les autres machines. Vous noterez d'ailleurs que la machine qui bat le joueur de Go, c'est pas la même que celle qui bat le joueur d'échecs. C'est-à-dire que c'est des machines qui sont robotisées, qui sont faites pour un travail spécialisé. Elles le font très bien, mais elles ne répondent qu'à des automatismes. Donc il y a quelque chose là qui est un peu se moquer du monde quand on parle d'intelligence artificielle. Non, c'est pas de l'intelligence artificielle. Une souris ou une abeille est bien plus intelligente que toutes ces machines-là, parce qu'elle est capable de réagir dans des situations imprévues que le robot est incapable, parce qu'elle est capable de réactions de type émotif, par exemple, qui est quand même important, capable d'avoir une pulsion vers un autre ou autre. Non, ces intelligences artificielles n'ont pas tout ça. Donc, je pense que c'est pas de l'intelligence artificielle. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas craindre ces machines-là, en fait. Parce qu'actuellement, c'est un peu ce que j'avais mis en sous-titre de mon intervention. On nous met des trucs, la machine va nous, l'intelligence artificielle, les robots vont nous dominer. Non, il n'y a aucune chance qu'ils nous dominent s'il n'y a pas quelqu'un qui leur apprend à nous dominer. Autrement dit, ce qu'ils font craindre, c'est pas la machine. La machine, c'est pas grand-chose, même si elle est très performante. Mais c'est celui qui fabrique une machine qui sera capable de nous réduire en esclavage. Donc là, le problème éthique et politique, il apparaît tout de suite. C'est pas un problème technique. Il faut, si on doit mettre des limites, c'est à ce niveau-là. C'est pas contre la machine, c'est contre ceux qui la fabriquent. Qui la fabriquent et qui fabriquent aussi les algorithmes qui aujourd'hui sont les systèmes qui régulent de plus en plus notre vie sociale et qui nous robotisent nous-mêmes comme personnes. Donc j'évoquais tout à l'heure Orwell et Huxley, mais on est en plein là-dedans avec ces algorithmes. Le cyborg, qu'est-ce que c'est le cyborg? C'est l'ajout d'un dispositif mécanique à un organisme dans le but d'avoir de nouvelles sensations, avec par exemple des puces électroniques. Vous savez, on peut aujourd'hui arriver à voir, les aveugles peuvent voir avec les oreilles, avec une transformation du message. Bon, c'est très joli techniquement. Et ça a l'air de marcher, ça coûte une fortune, mais c'est des belles démonstrations. Simplement, on se demande si ces démonstrations-là, le jour où ce sera moins cher, ça ne va pas être utilisé et généralisé un peu pour autre chose. Mais voilà, des nouvelles sensations. Donc là, on a uni l'organisme avec des dispositifs mécaniques. C'est la résistance à des environnements hostiles pour les voyages interplanétaires, où on va transformer l'environnement de l'homme complètement. On va le mettre dans un scaphandre, on va le mettre dans un truc qui va à la fois réguler les pressions, les températures et tout ça. Bon, ben, on transforme en cyborg, oui. C'est la commande d'une machine par le cerveau. Alors ça, c'est utilisé en médecine déjà pour des cas assez rares, mais des tétraplégiques qui peuvent commander une tasse de thé simplement en pensant qu'ils veulent une tasse de thé. Techniquement, il faut reconnaître que c'est assez extraordinaire d'arriver à faire une chose pareille. Mais est-ce que vraiment il y aura un usage de ça assez important en dehors de la belle démonstration? Et est-ce que c'est pas préparé déjà le rapport de, enfin, la fusion entre la machine et le cerveau qui pourrait s'appliquer à n'importe quel individu qui serait pas tétraplégique? Donc je veux dire que quand on travaille sur ces systèmes-là, on se pose pas du tout la question, on dit c'est médical. Il y a cette personne qui est tétraplégique, on va lui installer un dispositif qui lui permettra, par la pensée, de se faire servir par un robot une tasse de thé. Bon, c'est bien, mais quelle est la suite de la chose? Personne ne s'interroge. Personne. C'est un peu comme quand, plus petite échelle, parce que nous c'était du bricolage, quand on a commencé la fécondation in vitro, il n'y avait rien, aucune réflexion. Les comités d'éthique sont arrivés un an après Amandine, et on n'avait rien. Donc qu'est-ce qu'on avait comme référence? Bah, ce qu'on appelle en général l'éthique médicale, c'est-à-dire ne pas faire mal, ne pas obtenir le consentement et ne pas nuire. En gros, c'était ça. Obtenir le consentement des gens, toujours facile, vous avez des gens stériles qui viennent, ils vont vous signer tous les papiers que vous voulez pour faire n'importe quoi. Donc ça, c'est le consentement éclairé. Et puis, ne pas nuire, c'est-à-dire s'arranger pour faire au mieux, à la fois vis-à-vis des patients et pour réussir la manip qu'on est en train de faire. Ben c'était ça. Ça, c'était l'ancêtre de la bioéthique, ce type de comportement. Ben, on en est un peu là, alors qu'on a appris beaucoup de choses quand même depuis, on en est un peu là avec des développements qui se font dans les labos, qu'on vous montre à la télé. Ça crée de l'admiration, assez justifiée, parce que techniquement, c'est des performances, mais sans s'interroger sur où on va mettre la barrière de l'usage d'une telle technologie pour éventuellement la généraliser, la transformer et la généraliser à l'espèce humaine. Donc c'est les connexions du cerveau-ordinateur qui vont augmenter notre puissance intellectuelle, notre mémoire et éventuellement l'immortalité, comme je disais tout à l'heure, si vous transférez votre cerveau. Alors il y a des trucs, tout le problème avec les transhumanistes, c'est qu'ils sont pas très anciens et ils sont toujours dans la promesse. Et maintenant, ils vous donnent une date, c'est 2045-2050. C'est le moment de la singularité, l'intelligence artificielle qui va complètement changer ses capacités et qui va être autonome, par exemple. Mais il y en a certains qui ont donné des dates quand même, audacieusement. Ça permet de juger, là. Il y en a un qui s'appelle Kevin Warwick, qui est un Britannique, qui est le premier cyborg. Il s'intitule lui-même « Premier cyborg ». Parce qu'il s'était mis une puce électronique il y a 15-20 ans sur le bras pour ouvrir la porte de son garage. Puis après, il s'en est mis un peu partout. C'est vachement utile d'avoir une puce électronique pour ouvrir son garage. Donc il était un cyborg. Il avait uni l'organisme et la machine. Voilà. Eh bien, il déclarait ce type-là, qui n'est pas un imbécile, qui est un... Il est respecté par les transhumanistes. Au début des années 2000, il disait « Nous aurons la télépathie en 2015 ». Vous avez entendu parler qu'on ait la télépathie ? Bon, donc là, on peut juger, mais c'est rare qu'on puisse comme ça prendre en défaut les promesses qui, en général, sont vraiment tellement audacieuses que c'est des choses qui n'arriveront jamais. Alors, il y a aussi l'augmentation des performances. J'en ai pas encore parlé. Donc ça correspond aussi à des pulsions primordiales, hein, être plus fort que les autres, être plus intelligent, être plus rapide. Donc c'est pas dans l'abstrait, c'est toujours par comparaison dans le cadre de la compétitivité. Et les terrains d'expérimentation de ces performances, aujourd'hui, c'est le sport pour personnes normales, c'est les Jeux Olympiques, pour personnes handicapées, le handisport, qui a l'avantage, le handisport, de permettre de tester des molécules qui sont interdites, normalement, en régime sportif, des dopants, de doper carrément, mais puisque ce sont des individus qui ont besoin de ces molécules pour survivre et pour s'épanouir. Donc c'est un moyen à la fois de molécules et puis de tester des dispositifs. Vous vous rappelez Pistorius avec sa jambe en tungstène. Bon, tout ça, c'est des essais qui mobilisent beaucoup de fric parce que c'est des essais pour tout le monde, pour l'avenir. Donc le sport est un terrain d'expérimentation humaine qui passe très très bien. Et puis il y a évidemment l'armée qui a besoin d'avoir des soldats qui sautent 3 mètres de haut. Et tout ça est très très étudié, surtout par l'armée américaine, mais aussi en France. En France, il y a des programmes aussi pour avoir des soldats qui courent beaucoup plus vite, ou qui sautent plus haut, qui résistent à la chaleur. Tout ça, c'est des études qui existent aujourd'hui. Alors les actions, il y a des actions sur le corps, on pourrait dire, et des actions génétiques. On va faire la différence. Les actions sur le corps, c'est en gros les prothèses, les drogues, les stimulations du cerveau, par exemple. Et puis les actions génétiques sur lesquelles je vais m'apesantir un peu plus, puisque tout à l'heure je vous parlais de génisme, mais on va rentrer dedans. Les actions génétiques, elles ont un effet seulement, elles ont une possibilité d'intervenir seulement au tout début du développement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas modifier génétiquement un individu qui existe déjà, qui est dans la vie, qui est malade. Vous pouvez soigner un organe, mais vous ne pouvez pas changer tout son génome, qui est le même dans toutes les cellules de son corps. C'est plus possible. Ça ne peut se faire qu'à un stade, c'est la première cellule embryonnaire. Ou même un stade antérieur sur les gamètes qui vont fabriquer cette cellule embryonnaire. Bon, aujourd'hui, on vise surtout la cellule œuf, la première cellule, le zygote, qui vient d'être fécondée et qui pourrait être modifiée. Alors, en quoi ça consiste ? Par analogie avec les OGM végétaux dont vous avez entendu parler, on pourrait parler d'HGM, un humain génétiquement modifié, dans lequel on aurait introduit des gènes qui lui donneraient des capacités qui n'existent pas dans l'espèce humaine. Je dis bien qu'ils n'existent pas parce que là, on n'est pas dans le soin. Étant donné qu'on ne connaît pas l'identité de l'œuf, je l'évoquais tout à l'heure, l'identité, on la connaîtra éventuellement quelques jours plus tard par analyse du génome d'une cellule parmi plusieurs. Mais quand il n'y a qu'une cellule, on ne peut pas l'analyser et la modifier. Puisque quand on l'analyse, on la détruit. Donc, c'est un truc qui est fait à l'aveugle. Autrement dit, c'est le but ne peut être que l'augmentation et pas le soin. Là, on voit bien qu'il y a une grande différence. C'est l'augmentation humaine. C'est d'introduire dans un œuf humain des gènes qui lui donneront des qualités qui n'existent pas ou qui sont très réduites dans l'espèce humaine. Donc on est là dans l'augmentation, pas dans le soin, c'est très très clair. Alors ça pose des difficultés tout de suite, puisqu'on ne peut pas si vous voulez cibler, personnaliser cette modification génétique. Il y a l'Américain que je nommais tout à l'heure, Ray Kurzweil, toujours le même, qui est très très influent, a dit mais c'est pas important. L'humain est tellement minable que de toute façon on risque rien à lui introduire des gènes nouveaux et je vais fabriquer une cassette, il appelle ça une cassette, de 10 gènes qui vont être introduits systématiquement dans tous les embryons humains, de façon à leur donner des qualités. Alors ces qualités, c'est quoi ? D'avoir des os qui se cassent pas, de résister, enfin de pas avoir la maladie d'Alzheimer, d'avoir moins de risques de cancer, d'avoir bon des choses comme ça. Tout le monde dirait oui, je préfère être comme ça que d'être malade. Mais l'idée, c'est d'introduire cette cassette génétique dans tous les embryons humains. Alors bon. D'une part, ça pose quand même des problèmes parce que là, on est vraiment dans l'augmentation humaine qui jusque-là nous choque. Ça choque pas les transhumanistes, hein, au contraire. Mais nous, ça nous choque. Mais en plus, on n'est pas dans le faisable. Parce que tout ce qu'on nous raconte sur la modification génétique, et là, l'expérience, 20 ans d'expérience avec les végétaux le montre, en fait, on contrôle rien. On peut avoir une action ponctuelle en faisant en sorte qu'un maïs va par exemple tolérer un herbicide, mais d'abord c'est ponctuel parce que ça finit par s'user, parce que les plantes mutent et qu'il faut changer de substance, mais ça génère des effets parasites qui sont en général cachés, dont on ne parle pas. Il y a des effets paradoxaux, on pourrait dire, ou des effets ignorés, de ces modifications génétiques des plantes ou des animaux. Je pense par exemple, chez les animaux, on a introduit des gènes d'hormones de croissance. Ça a été fait chez des poissons, chez, euh, chez la vache, chez le mouton, chez pas mal d'animaux, et on constate un peu partout la même chose. Ces animaux sont malades. Ils ont du diabète, ils ont des problèmes. C'est-à-dire qu'on a poussé sur une fonction et qu'on a empêché une régulation normale et harmonieuse de la vie de l'organisme. Donc il y a des conséquences très graves. Alors, en dehors du fait que déjà, c'est un peu hasardeux d'introduire une modification dans l'œuf humain, parce que quand on fait ça sur une plante, on fait ça sur des milliers d'exemplaires, où on va essayer d'introduire un gène par des voies diverses, et ensuite on va tester grâce à un antibiotique, on a des techniques qui permettent d'identifier les plantes qui ont absorbé ce gène, mais encore, on ne sait pas vraiment à quel endroit elles l'ont pris, est-ce que ça va avoir comme effet, mais on peut sélectionner une infime minorité de ces cobayes qui ont reçu l'information qu'on a voulu leur donner. Quand vous avez affaire à un œuf humain, comment vous voulez faire une chose pareille? C'est pas possible. Ça doit être un truc qui marche à tous les coups. On peut pas se permettre une expérimentation. Donc je crois qu'on est vraiment très très loin de ça. Et en plus, il faut quand même ajouter que malgré la propagande en particulier qui a été faite cette année en particulier sur CRISPR-Cas9, vous avez entendu parler de les ciseaux génétiques miraculeux. C'est le miracle de la période, hein, ça va durer 3-4 ans. On parle déjà d'autres CRISPR plus efficaces. En fait, c'est pas si efficace que ça, puisque les essais qui ont été faits sur des embryons humains par des Chinois, puis par des Américains, montrent que ça marche pas très bien. C'est-à-dire que la plupart des embryons ne sont pas modifiés comme on l'a voulu, mais surtout qu'on a induit des mutations, jusqu'à des centaines de mutations, dans l'embryon où on avait voulu faire une modification. On les a induits de façon involontaire. C'est-à-dire qu'on a plein de conséquences et on ne peut pas se permettre une chose pareille dans l'espèce humaine. Donc moi, je crois personnellement qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir, ou peut-être pour les décennies à venir en tout cas, à ces modifications du génome humain. En revanche, et c'est de ça que je voulais vous parler, parce que c'est contre ça que je me bats depuis 35 ans maintenant, c'est qu'on peut, au lieu de modifier l'embryon, on peut le trier. Et le trier, alors tout le monde se dit, bon, le trier, ça va être éviter des grosses maladies. C'est comme ça que le diagnostic préimplantatoire a été autorisé, pour éviter le pire, apparemment. Mais en fait, cette sélection des embryons, elle va beaucoup plus loin. Pour moi, ça fait partie du développement de l'eugénisme nouveau. Vous avez tous entendu parler de l'eugénisme nazi. Bon, mais aujourd'hui, c'est complètement assimilé. Eugénisme égale nazisme. Ce qui est faux. L'eugénisme, le mot a été inventé par Francis Galton, cousin de Darwin, à la fin du 19e siècle. Donc le mot existait bien avant les nazis. Et la pratique eugénique elle-même, elle est aussi vieille que l'humanité. Par exemple, à Sparte, quand on jetait les enfants mal foutus dans un précipice, c'était quand même de l'eugénisme. Alors c'est l'eugénisme qu'on dit négatif, on élimine ce qui ne va pas. Puis il y a, au contraire, l'eugénisme positif. Par exemple, chez les Égyptiens anciens, où ils faisaient des mariages familiaux, intrafamiliaux, pour garder le bon sang dans la famille, avec l'inceste, on pourrait dire, qui était pratiqué dans un but eugénique d'améliorer la race des dirigeants. Donc, l'eugénisme tel qu'on l'a connu jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, il n'est pas recevable. Il a été remplacé par un nouvel eugénisme. Je vais un peu vite, hein, mais j'ai écrit plein de bouquins là-dessus. Bon, un nouvel que moi j'ai appelé mou, consensuel et bienveillant. Vous voyez, ça ne correspond pas du tout à l'image qu'on a de l'eugénisme nazi, bien sûr. Mou, consensuel et bienveillant, et ça s'est répandu surtout avec la sélection des donneurs de sperme. Depuis les années 70, on était capable de congeler le sperme humain. Donc, en congelant le sperme humain, on rendait possible l'insémination artificielle avec donneur anonyme, puisque le sperme congelé pouvait être délivré 5 ans, 10 ans après, sans rencontre du donneur avec le couple receveur de sperme. Et ça a développé un système qui, en France, encore une fois, a été développé de façon, on pourrait dire, éthique. Une éthique que je me permets de critiquer, mais malgré tout, une éthique. On a voulu moraliser en maintenant que c'était gratuit, que c'était anonyme. Voilà. Aux États-Unis ou dans plein d'autres pays, ça se vend, le sperme se vend, il s'achète, et ça s'est ensuite répandu, pareil pour les ovules et les embryons. Donc on peut, dans la plupart des pays, on peut acheter des gamètes ou des embryons qui sont génétiquement calibrés, jusqu'au point où même, où pour le sperme, il y a déjà dans les années 80, un type avait proposé les bébés Nobel, c'est-à-dire une banque où des prix Nobel viendraient déposer leur sperme. D'après ce que j'ai su, il y a un seul prix Nobel qui y est allé, et comme c'est un sperme de vieillard, ça n'a pas dû faire beaucoup de bébés. Mais on y met en revanche le sperme des présentateurs de télé et des joueurs de football. Et c'est très prisé, et le prix de la paillette de sperme varie avec la célébrité du donneur. Bon, tout ça c'est un peu des bêtises, mais c'est un eugénisme. Pourquoi c'est un eugénisme ? Parce que le but, c'est d'avoir un enfant qui soit conforme à un modèle. Et de cette façon-là, bon, un joueur de foot, ça paraît un peu abstrait, mais si on prend un mathématicien, par exemple, parce que ça existe aussi, d'avoir un enfant qui soit supérieur à la moyenne dans ses performances scolaires, et donc, progressivement, d'améliorer ainsi l'humanité. Alors, c'est pas du tout obligatoire, c'est les gens qui le demandent. Pourquoi je dis c'est mou, c'est consensuel, c'est bienveillant. Mais il n'empêche que ça ressortit de l'eugénisme, parce que, finalement, le but de l'eugénisme, c'est pas d'être méchant. C'est pas, on pense à l'eugénisme nazi, de sacrifier des gens ou de les castrer de façon autoritaire, par exemple. C'est effectivement, ça fait pas plaisir. Mais il s'agit pas du tout de ça. Le but de l'eugénisme, c'est d'améliorer l'espèce humaine. Et pour ça, il y a plusieurs façons. Il y a des façons autoritaires, et puis il y a des façons qui sont médicales, on pourrait dire. Et la sélection des donneurs de sperme qui s'est développée depuis les années 70 en France. La France a été pionnière là-dedans avec les banques de sperme qu'on appelle les SECOS. La sélection des donneurs de sperme, à mon avis, est la première forme de cet eugénisme mou que je suis en train d'expliquer là. Bienveillant, hein. C'était bien sûr, c'est plein de bonnes intentions. Sélection des donneurs de sperme, là je parle pas des critères de que le sperme résiste au froid parce qu'on va le congeler. Bon, tout ça c'est évidemment, c'est obligatoire. Mais la sélection sur des bases génétiques, d'hérédité. Ça, c'est quelque chose qui va plus loin et qu'en général, on ne pratique pas avec son partenaire dans la vie de tous les jours. On ne choisit pas un partenaire en faisant une enquête génétique sur sa famille. Or, c'est ce que font les banques de sperme sur tous les donneurs. Et puis ensuite, d'apparier, ça c'est un deuxième stade de l'eugénisme des banques de sperme, d'apparier chaque donneur avec les femmes demandeuses de sperme parce que leur conjoint est stérile, d'apparier le donneur avec la receveuse sur des critères génétiques pour éviter les facteurs de risque convergents. C'est-à-dire que s'il y a un risque de diabète chez le donneur, on a tous des risques, je vous dis. Alors, quand vous grattez, vous trouvez. Donc, celui qui a un risque de diabète, vous pouvez le garder, mais pas pour une femme qui elle-même a un risque de diabète dans sa famille. Bon, ça paraît, c'est de bon sens, tous ces trucs-là sont de bon sens, c'est comme ça que ça avance. Mais on rentre de là dans l'eugénisme, c'est une pratique qui n'existe pas dans les accouplements sauvages que nous pratiquons encore, et donc c'est une volonté de la médecine de fabriquer des enfants qui soient mieux que les autres, avec un résultat qu'on ne connaît pas, puisque après 40 ans d'exercice, les SECOS n'ont pas fait bilan de la qualité des enfants qu'ils ont pu faire naître. Donc soit il n'y a pas d'effet, ce qui est très vraisemblable, parce que tout ça est un peu quand même... Enfin, je ne pense pas que c'est un effet considérable. Soit il y a un effet, et ce serait assez dramatique. Dans tous les cas, c'est une pratique qui mériterait d'être examinée et qui ne l'a jamais été. Jamais dans la révision des lois de bioéthique, on a vu remettre en cause ou même chercher à comprendre comment les banques de sperme font le tri et l'appariement des donneurs. Jamais. Et c'est un truc fondamental. Donc moi j'en reparle à chaque révision des lois quand je suis auditionné pour donner mon avis là-dessus. On me dit oui, vous avez raison, mais il ne se passe jamais rien. Il ne se passe jamais rien parce que le lobby des banques de sperme a décidé qu'il ne devait rien se passer. Tout ça c'est un peu artisanal et ça n'a pas beaucoup de sens parce que trier des géniteurs, ça ne permet pas vraiment d'améliorer le produit enfant. En revanche, de trier le produit enfant quand il est formé, à l'occasion de la fécondation in vitro, grâce au diagnostic préimplantatoire, ça a du sens génétiquement. Et c'est ce qui est en train de se développer. C'est-à-dire que ce DPI, le diagnostic préimplantatoire, c'est le moyen idéal pour l'exercice eugénique. Parce que ça permet le choix du conceptus lui-même, du futur individu, plutôt que celui du géniteur, lequel géniteur va passer par plein de loteries gamétiques, génétiques, dans la méiose, dans un tas de processus, qui font qu'on ne peut pas savoir quel type de gamètes il va produire et quel type d'enfants naîtront de ces gamètes. Donc, voilà. Alors, je ne peux pas développer trop, sinon ça va nous amener un petit peu loin. Mais je voulais quand même citer ça. Alors, pourquoi je rentre ça dans le cadre du transhumanisme ? Bon, d'abord, parce qu'à mon avis, le transhumanisme, globalement, c'est l'eugénisme de demain. C'est fabriquer un homme de meilleure qualité que ce soit par des procédés électroniques ou par des procédés génétiques, on est dans l'eugénisme. Donc le transhumanisme, c'est le nouveau nom qu'on donne à l'eugénisme, avec pudeur, mais c'est le nouveau nom. Donc qu'est-ce qui se passe avec cette sélection des embryons? Pourquoi je dis que c'est quand même un mécanisme très puissant? Eh bien, parce que vous pouvez arriver, quand vous avez beaucoup d'embryons, vous pouvez arriver à faire une sélection qui est très très importante, plus importante par exemple que celle qu'on a faite pour sélectionner nos bovins, ou les cochons, ou tous les animaux, beaucoup plus, parce qu'on a toujours sélectionné les géniteurs et pas les embryons. Aujourd'hui, on sait sélectionner les embryons. On pourra le faire aussi sur les bovins d'ailleurs. Mais beaucoup plus fort. Et ce qui est arrivé récemment, je veux quand même citer ça, il y a une équipe japonaise qui, il y a 2 ans, a publié dans Nature un truc extraordinaire chez la souris, où ils ont montré qu'ils pouvaient fabriquer des gamètes avec les cellules de la peau de la souris. Ils peuvent fabriquer des ovules et des spermatozoïdes. Ils peuvent ensuite utiliser ces gamètes pour les féconder et obtenir des embryons qu'ils transplantent dans des souris, obtenir des souriceaux dont certains, pas tous, mais certains, vivent, sont normaux, se développent et se reproduisent eux-mêmes. Donc ils ont montré la faisabilité de passer par l'étape qui n'est pas celle de la fabrication normale des gamètes, mais à partir de cellules de peau qui sont en quantité innombrable, ou de n'importe quelle cellule du corps. Chaque cellule du corps, potentiellement, peut devenir un gamète. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire d'un point de vue biologique, et que personne n'aurait cru possible il y a quelques années, mais c'est démontré quand même. Et évidemment, il va y avoir des recherches chez l'homme là-dessus, puisque ce travail-là a seulement 2 ans chez la souris, et il y a aucune... il est évident que ça va être possible aussi chez l'homme. Techniquement, ce qui est possible chez la souris, c'est possible chez l'homme. Donc, on va arriver à produire des milliers de gamètes, des milliers d'embryons, dans l'espèce humaine, et ceci sans faire souffrir les gens, les femmes en particulier. Puisque la fécondation in vitro, c'est ce que les femmes appellent le parcours du combattant. C'est quand même plein d'épreuves, avec des injections hormonales, des échographies, des ponctions, des machins. C'est vraiment très pénible. Là, il n'y a plus besoin de ça. Une petite biopsie, c'est-à-dire un petit prélèvement de peau, et puis on met ça au congélateur, et puis on s'en sert quand on veut, et on génère des gamètes. Et on fait pareil avec le conjoint, qui va générer des spermatozoïdes, et ensuite on fabrique des embryons en nombre incalculable. Et ces embryons, on peut les soumettre au fameux algorithme qu'on est en train de chercher grâce à ce programme dont je parlais tout à l'heure de séquençage de l'humain, pour rechercher finalement à l'aveugle, non pas rechercher telle pathologie, mais de rechercher tout ce qu'on peut, tout ce qu'on connaît génétiquement. Et tout ça pour une somme complètement modique. Aujourd'hui, il y a des boîtes qui vous proposent ça pour 1 000 euros aux États-Unis. Donc, en France, c'est interdit. Il faut avoir des raisons médicales pour faire son génome. Mais aux États-Unis, c'est possible. Et ailleurs aussi, dans beaucoup de pays. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous faites la sélection sur des centaines d'individus potentiels, qui sont les embryons. Vous gardez le meilleur, vous le transformez en enfant. Et j'irai pas jusqu'à, parce que j'ai pas le temps, mais de développer la sélection itérative, qui est un truc inventé par un Américain, qui s'appelle Nick Bostrom, qui lui est philosophe, mais s'est intéressé beaucoup à la génétique, et qui prétend qu'on pourrait augmenter le quotient intellectuel de 11 points pour chaque sélection d'un embryon sur 10. Vous avez 10 embryons, vous en sélectionnez un sur des critères de QI. Alors pour le moment, QI et génome, c'est le trou noir, on ne connaît pas. Mais il y a énormément de recherches, surtout en Chine, pour mettre en relation des éléments du génome avec des résultats du QI chez des individus qui existent. Et quand on aura ces résultats, on peut très bien les appliquer aussi à l'embryon. Et ce Nick Bostrom, il vous dit qu'on va augmenter de 11,5 points, c'est vachement précis, le QI d'un enfant qui serait né en ayant été sélectionné parmi 10 embryons. Mais je disais là, la sélection itérative va beaucoup plus loin, là ça donne le vertige. Il dit que au lieu d'attendre que cet individu fasse un bébé, et qu'ensuite on continue de génération en génération, on va multiplier l'embryon in vitro. On va lui faire produire, on va prendre des cellules souches, on va les transformer en gamètes, à partir de l'embryon, on va refaire des embryons, et on va faire ça plusieurs fois. Alors là, c'est comme si, en une année, on avait vécu 5 siècles de sélection, quoi. Et bon, c'est assez fou, et bon, je sais pas jusqu'à quel point c'est faisable, parce qu'il y aurait quand même de la consanguinité, sûrement. Mais ça montre bien que ces gens-là n'ont aucune barrière dans leur esprit, et le but c'est vraiment d'aller au plus vite et de sélectionner sans arrêt, voilà. Et les Chinois sont tout à fait en pointe là-dessus. Ils utilisent ces techniques-là déjà, enfin, pas pour trier les embryons, hein, pas encore, mais ils sont à la recherche, je vous dis, pour ce qui est du quotient intellectuel, de ce qu'on va appeler les gènes de l'intelligence. Et je pense que ce qu'on fait en France n'est pas du tout étranger à ça. Si on faisait un peu du droit et de la bioéthique, ce serait étranger à ça, c'est-à-dire qu'on chercherait des limites à ces techniques, mais c'est pas du tout ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est d'imiter ce que font les Américains et les Chinois pour être compétitifs, puisque c'est le mot d'ordre général. Alors, tous les artifices que j'ai cités tout à l'heure, pour qui seront-ils? Parce qu'un cœur artificiel, ça coûte 150 000 $, hein. C'est pas rien. 150 000 $, mais les thérapies géniques dont on parle actuellement, et qui sont expérimentées actuellement aux États-Unis, elles sont entre 1,5 et 1 million de dollars par personne. 1 million de dollars. Bon, il est impossible que notre sécurité sociale couvre des charges pareilles. C'est impensable. Et quand bien même on discuterait avec le fabricant pour ramener ça à 200 000 €, je ne vois pas comment on pourra traiter beaucoup de gens avec ça. Donc, ça pose une vraie question. Pour qui seront ces artifices coûteux s'ils marchent? S'ils marchent, hein, parce que je mets toujours une réserve. Quelle démocratie, évidemment, hein, en conséquence, peut-être... Alors, il y a les gens comme Technoprog, j'évoquais tout à l'heure, l'association française transhumaniste, qui sont des progressistes, contrairement aux Américains. Donc, il y a quelque chose d'original chez eux, mais ils sont complètement naïfs, ou alors ils se moquent du monde, ils sont cyniques, je ne sais pas, mais ils pensent qu'on peut faire un transhumanisme démocratique. On ne voit pas comment on pourrait, avec des techniques très chères et qui en plus déshumanisent complètement les individus, on pourrait avoir une société démocratique. Bon, j'ai eu beaucoup de discussions avec eux, j'ai jamais eu la réponse. Alors qu'est-ce qu'on fera des pauvres? Qu'est-ce qu'on fera des résistants? Ceux qui veulent pas, parce qu'après tout, on n'a rien demandé. Enfin, moi, j'ai rien demandé. Je sais pas si vous avez demandé des trucs pareils. On n'a rien demandé. Mais c'est ça qui est invraisemblable. On est à une époque où on est en train d'essayer de se battre pour trouver... Mais... C'est invraisemblable qu'on nous impose des machins pareils, et on nous les impose déjà. Je vais y revenir. Donc, pour ceux qui veulent pas, ce sera l'élimination ou la servitude. L'élimination, elle est déjà prônée par des transhumanistes américains qui envisagent de balancer des bombes atomiques sur des continents entiers qui seraient en retard techniquement et qui seraient peuplés de sous-humains. C'est pas bon tout ça. Mais il y a des gens qui... on est vraiment dans le fascisme en même temps, hein. Et c'est des techniciens, ça, c'est pas des idéologues, des politiciens. C'est des généticiens qui tiennent des discours pareils. Donc ça va vraiment très très loin. Autre chose que je voudrais dire dans les questions que ça pose, est-ce que tout ça c'est pas des fausses voix? Est-ce que c'est pas vraiment des promesses complètement dans le vide? Par exemple, on parle d'augmenter la longévité. Bon, c'est un truc qu'on... Mais on dit pas en même temps que pour le moment l'espérance de vie est en train de diminuer. Elle est en train de diminuer à cause de, vraisemblablement, des produits chimiques qu'on répand un peu partout dans la nature. Donc l'espérance de vie qui diminue, c'est contre ça qu'il faudrait essayer d'agir, plutôt que de laisser miroiter qu'on va vivre 3 siècles. De même, est-ce que c'est pas une fausse voie quand on voit que le contrôle du bon fonctionnement du corps, avec toutes ces machines, j'ai dit tout à l'heure, où on pourrait auto-connaître son fonctionnement, c'est au moment où augmentent les maladies chroniques partout. Il y a de plus en plus de gens dans les sociétés développées qui souffrent de maladies qui n'existaient pas, ou très peu, qui se généralisent. Et c'est à ce moment-là qu'on nous dit qu'on va avoir des systèmes qui nous permettront d'être en bonne santé parce qu'on va enregistrer les paramètres biologiques. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, là. On ferait peut-être mieux de se battre contre les maladies chroniques. Donc, enfin, un troisième exemple, celui de l'intelligence. On va augmenter l'intelligence. Mais vous savez que le quotient intellectuel, qui est un outil de mesure discutable, mais qui existe, eh bien, le quotient intellectuel, il diminue depuis 20 ans. Il diminue. Et il y a une biologiste, Barbara Domenech, qui a montré que c'était vraisemblablement à cause des perturbateurs endocriniens qui, pendant la grossesse, vont agir sur le cerveau de l'enfant, par le biais de la thyroïde, vont agir sur le cerveau de l'enfant qui ne sera pas développé normalement, et qu'il y a certainement des causes de ce type-là. Donc, est-ce que c'est vraiment le moment de parler d'augmenter l'intelligence alors qu'on est en train d'augmenter les toxiques qui réduisent l'intelligence? Et puis dans tout ça, je dis aussi que c'est une fausse voie, parce que quand on regarde, quand on lit les articles et les livres des transhumanistes, c'est vraiment, c'est un humain qu'ils ont, qui est là, alors par morceaux, parce que chacun est spécialisé dans le cerveau, dans tel machin, mais c'est des morceaux d'humains qui sont en dehors de tout l'environnement. Ils sont in silico, ils sont sur la paillasse. Ils sont là et jamais ces gens-là ne vous parlent de l'environnement. Comme si on n'avait pas besoin de l'environnement pour vivre. Et c'est quand même assez extraordinaire d'entendre des choses pareilles et en particulier de constater que tous les transhumanistes, même ceux dont je parlais, les francophones qui sont pour la démocratie et tout ça, sont tous favorables à l'industrie nucléaire, aux nanotechnologies, aux OGM, bref, à tout ce que beaucoup d'individus aujourd'hui combattent parce que c'est visiblement toxique pour l'humanité. Donc il y a un grand... c'est aussi des fausses voies parce que j'ai évoqué tout à l'heure le simplisme de penser qu'en agissant sur un point du cerveau ou sur un point du génome, on va maîtriser quelque chose. Toute action qu'on mène sur le génome ou sur le cerveau, c'est potentiellement une catastrophe. Et tant qu'on n'en saura pas plus, ce qui va durer longtemps, il n'y a aucune urgence à faire ça. Je voulais parler d'un autre aspect, c'est de l'innovation transhumaniste telle qu'elle apparaît et qui s'oppose complètement à ce qu'on savait de la science, à ce qu'on prétendait de la science. C'est-à-dire qu'on est dans le culte de l'aléatoire aujourd'hui. On n'est pas dans la recherche de vérité et de connaissances, on est dans le culte de l'aléatoire. Par exemple, ajouter des nouvelles lettres à l'ADN, les bases ADN, vous savez, il y a 4 lettres, A, T, G, C, bien il y a des gens, y compris en France, qui sont en train d'introduire une 5e, voire une 6e lettre dans l'ADN. Bon, pourquoi ? Ben, pour voir ce que ça fait. Pour voir, ça va faire des individus inédits, ça c'est sûr, on n'a jamais vu ça. On change l'ADN complètement, mais c'est assez fou. Est-ce que c'est une attitude scientifique ou est-ce que c'est de la sorcellerie ? Moi je dirais que c'est plutôt de la sorcellerie. Ça s'appelle de la xénobiologie, hein. Mais c'est quand même de la sorcellerie. Ou de même d'ajouter des nouveaux acides aminés au vin. On connaît 20 acides aminés déjà qui constituent les protéines. Eh bien on va ajouter un ou deux acides aminés synthétiques en plus. Pour voir ce que ça fait. Bon. De même, on pourrait dire dans quelque chose qui est un peu plus ancien, c'est les nanotechnologies. Vous savez, ces molécules chimiques qui sont dans un état physique particulier parce qu'elles sont dans ce qu'on appelle un état nano, c'est-à-dire beaucoup plus petit que ce qu'on n'a jamais vu. Elles acquièrent, en étant dans cet état, des propriétés que la molécule normale n'a pas. Ces propriétés sont complètement imprévisibles. Et en plus, le plus souvent, elle reste inexpliquée après coup. Mais on constate, quand on réduit quelque chose à l'état nano, on le fait agir, on ne sait pas du tout ce qu'on a trouvé. Je dis tout ça parce que ça va dans le même sens. On est sans arrêt dans l'aléatoire qui devient le but, quoi. On est dans le hasard va faire en sorte qu'on va trouver quelque chose. Donc ce n'est plus une logique qui permettrait d'avoir une hypothèse et de faire, de rechercher une méthode, une molécule qui va pouvoir correspondre à quelque chose. Non, on n'est pas là-dedans. On n'a pas d'hypothèse. On change tout. On efface tout. Ça veut dire un mépris pour l'existant, qui est l'homme et qui est tout ce qui peut être, on pourrait dire, naturel, entre guillemets, est complètement méprisé. Il y a un nommé George Church, qui est un généticien américain, transhumaniste, qui lui parle de machine à évolution. C'est-à-dire, on mettrait dans des machines à synthétiser des molécules, on mettrait les ingrédients qui permettent de synthétiser, on lui donnerait les éléments d'information pour agencer ces molécules ensemble, et on verrait ce que ça donne. Et ça permettrait de changer l'évolution, c'est-à-dire d'avoir une évolution, non pas qui soit maîtrisée par le généticien, mais qui soit auto-évaluée, et qui aboutirait à des individus, à des êtres nouveaux. On n'est pas dans l'humain, là, hein, on est dans la biologie en général, à des individus qui n'ont jamais existé et dont on pourrait peut-être admirer les performances et vouloir les reproduire. Bon, il y a même un autre exemple, c'est un chercheur qui a introduit des fragments d'ADN, donc, des fragments plus petits qu'un gène, donc quelque chose qui normalement ne s'exprime pas. Un tout petit bout d'ADN, il a introduit ça dans les plantes. Et il a observé des modifications des plantes qui sont reproductibles, c'est-à-dire en introduisant le même fragment dans une autre plante, on peut obtenir le même effet, qui sont imprévisibles, encore une fois. On est toujours dans la sorcellerie. Donc, qui pourrait peut-être avoir un avantage, mais c'est pas sûr, et qu'on maîtrisera ou qu'on maîtrisera pas. Mais vous voyez que c'est cette idéologie-là, cette espèce de culte de l'aléatoire qui relève de la sorcellerie, on est sorti de la science, complètement. Enfin, non, c'est pas enfin. Oui, je voudrais parler quand même dans les questions posées par le transhumanisme,
c'est l'asservissement de l'homme à la logique de la machine. Quand on aura des capteurs partout, qu'on dépendra d'intelligence artificielle et d'algorithmes de conduite qui nous diront fais ceci, fais cela, sinon tu vas mal te porter. Est-ce qu'on arrivera à un homme augmenté ou bien, comme a dit le philosophe Jean-Michel Beignet, à un homme simplifié ? Simplifié parce qu'il n'aura plus rien sur quoi agir. C'est finalement tous ces dispositifs qui joueront pour lui, qui décideront pour lui. Donc, et là, quand même, je veux évoquer le smartphone. Pourquoi j'évoque le smartphone ? Parce que c'est un très bel exemple. C'est quelque chose que vous avez tous, évidemment. C'est une machine qui n'existait pas il y a 25 ans, qui s'est répandue. Jamais on n'a vu une telle vitesse de propagation. S'est répandue dans le monde entier, dont dispose aujourd'hui peut-être la moitié de l'humanité. Les gens vivent toute la journée avec ça, l'ont à table, dorment avec, vous savez, ils le mettent sur l'oreiller ou sur la table de nuit. Ils sont complètement dépendants. Or, cette machine, elle pose quand même beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui ont écrit des livres là-dessus, des problèmes de comportement en société. Enfin, si vous prenez l'autobus ou le métro, vous voyez bien. Moi, j'ai compté qu'il y a au moins 8 personnes sur 10 qui sont là-dessus tout le temps. Au moins 8 sur 10. Hein. Donc, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils savent pas, qu'ils ne regardent pas les autres, qu'ils parlent à personne, qu'ils sont murés dans leur machine. Et puis, il y a aussi cette histoire quand même que ça modifie, ça c'est quand même important, il a été montré que ça modifie une partie du cerveau, enfin, c'est surtout quand on utilise le GPS, hein, puisque ça a été trouvé chez les chauffeurs de taxi londoniens qui utilisent beaucoup le GPS. Maintenant, on prend plus de plan. Un plan, on cherche à comprendre, on va à droite, à gauche, non là, on regarde le trait sur la machine, c'est développé comme ça. Eh bien, les chauffeurs de taxi londoniens ont un organe du cerveau qu'on appelle l'hippocampe, qui est réduit à peu près de moitié par rapport à la normale. Alors, vous direz, bon, bah, c'est pas grave du moment qu'ils ont le GPS et qu'ils peuvent continuer, parce que l'hippocampe sert à l'orientation, entre autres. Mais ça sert à plein de choses, y compris à fabriquer des nouveaux neurones. Ça sert à plein de choses, l'hippocampe. Donc, c'est un exemple, mais on n'a pas tout vu. Ça a été vu presque par hasard. Mais il y a plein d'effets de ces machines-là. Ça montre que on est dans un système où on répand abondamment, partout, de façon universelle. Là, c'est le cas. Ces téléphones portables, c'est une prothèse universelle et permanente. C'est la première, je crois. Qu'on ne compare pas ça avec les lunettes. Les gens qui voient bien, ils ne portent pas de lunettes. Donc, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et je parle de ça parce que ça veut dire qu'il y a plus qu'un acquiescement des populations. Il y a une avidité pour ces trucs-là. Il y a une fascination. Et quand sort le nouveau smartphone qui maintenant coûte aussi cher qu'un SMIG, il y a la queue toute la nuit pour rentrer dans la boutique. Alors vous allez me dire, mais moi je n'ai pas fait la queue. Bon, mais vous l'achèterez dans 3 mois. Ça ne change pas grand-chose. Donc il y a quelque chose là, je ne suis pas en train de vous faire la morale, hein, mais je veux dire, je suis en train de quand même vous faire remarquer qu'on participe au développement du transhumanisme quand on ne s'interroge pas sur ce qu'on accepte déjà. Donc il y a un asservissement à la machine. Et ça, c'était... Bon, il y a un philosophe allemand qui s'appelait Günther Anders qui a parlé de honte prométhéenne il y a plus d'un demi-siècle. La honte prométhéenne, c'était ça, c'était que l'homme est humilié devant les performances de la machine qu'il fabrique. Vous vous rendez compte, c'était un demi-siècle, les machines, elles étaient un peu minables à ce moment-là. Mais la voiture, c'est vrai, elle est plus vite qu'un coureur à pied. Mais aujourd'hui, on a des machines très très performantes et on est de plus en plus minables comparativement. Et on dirait qu'on a honte de ça et qu'on veut compenser en faisant confiance à la machine et en espérant qu'il y en aura de plus en plus performantes et qu'on pourra les acquérir. C'est un peu ce qui arrive. Et dans ce système-là, donc être moderne, ça veut dire perfectionner l'homme ou bien ça veut dire le remplacer carrément par des machines. Et là, on en arrive aux robots. Et là, je remarque quand même un truc extraordinaire. C'est la commission des affaires juridiques du Parlement européen qui a décrété l'année dernière que les robots devaient être considérés comme des personnes électroniques. Des personnes, il n'y a personne quand même là-dedans. Donc ce sont des personnes électroniques. Ça veut dire que c'est plus qu'un chien. C'est des personnes électroniques. Ça veut dire que notre système, y compris juridique, est en train de flancher devant ces merveilles de la technoscience. Donc, et à tel point d'ailleurs que, encore un transhumaniste bien connu, Kevin Warwick, qui dit que les hommes qui refuseront tout ça, qu'ils appellent des bioconservateurs, tous ceux qui refusent ces techniques-là, c'est des bioconservateurs, eh bien, ils seront les chimpanzés du futur. Bon, ben, tant pis. Voilà. Alors, autre chose encore, c'est que le développement de ces technologies contredit les lois de la sélection naturelle. C'est-à-dire que le nombre des mutations qui sont confrontées au milieu, ça fait partie de la sélection naturelle. Il y a beaucoup de mutations, puis le milieu fait le tri. Et comme ça, c'est Darwin qui l'a montré. Et c'est vrai, ça marche toujours. Bon, et bien là, on est en train de faire quelque chose qui est d'imposer des mutations très nombreuses. Alors ça peut être au sens génétique ou ça peut être au sens sociologique, je parlais de téléphone portable. On est en train d'imposer des mutations dans la société à toute vitesse, de les généraliser à toute vitesse, alors que la sélection naturelle, non seulement elle agit par une mutation à la fois, les mutations ça, qui sont vraiment testées, qui tiennent le coup, il n'y en a pas beaucoup, donc elles sont testées, puis si elles tiennent le coup, elles vont avoir une chance de se répandre et peut-être de l'emporter. Mais tout ça se fait dans la lenteur. La lenteur, c'est fondamental. Et aujourd'hui, ça se fait tout dans la vitesse. Donc, non seulement c'est dans la vitesse, mais on impose. Donc, c'est une grande différence. Ça veut dire qu'il y a un jugement arbitraire de ceux qui fabriquent l'objet de mutation. Il y a un jugement arbitraire, ils disent ça c'est bon. Enfin, ils ne s'interrogent même pas d'ailleurs. Tout ce qui est nouveau est forcément bon. Donc, on impose ce qui est nouveau et on lui donne des chances de se développer. Alors que dans la nature, eh ben, le nouveau est confronté à l'existant et quelquefois, le plus souvent d'ailleurs, il perd. Et le nouveau ne s'impose pas. Ce qui fait que dans la lenteur, en général, les modifications sont bénéfiques. Parce qu'elles se font non seulement dans l'espèce, mais en rapport avec le reste du vivant. Là, il n'est pas question de ça, puisque je disais tout à l'heure, le reste du vivant, pour les transhumanistes, n'existe pas. Et puis, il est question d'imposer sans arrêt. Donc, on en vient à proposer contre ça ce que certains appellent la « slow science », la science lente, réfléchir, pas seulement contre le transhumanisme, mais aujourd'hui ça devient un mot d'ordre qu'on devrait imposer dans tous les laboratoires. La science est quelque chose qui doit être fait lentement, parce qu'on a des capacités de plus en plus puissantes, et on sait de moins en moins vers quoi on va. Donc le transhumanisme n'envisage que l'homme isolé, pas la créature sociale que nous sommes tous, et pas le fait que nous sommes de la nature. De la nature, je signale, c'est une expression que Jean-Paul Deléage a été le premier à lancer et que je reprends souvent. L'homme est de la nature. Je trouve ça très heureux. On fait partie de la nature. Donc les relations sociales sont négligées au profit des connexions électroniques. Ça nous amène à des conduites froides. Bref, c'est pas forcément l'idéal qu'on suit. La convivialité, c'est un mot qui disparaît dans le langage transhumaniste, bien sûr, puisque c'est remplacé par la compétition extrême au nom de l'efficacité. Et là, je voulais dire déjà ce qui apparaît dans le domaine de la procréation, par exemple. Il y a Laurent Alexandre, que je citais tout à l'heure, qui vous dit « Faire l'amour avec un robot, ça peut être beaucoup mieux qu'avec une personne qu'on a choisie, du même sexe ou d'un autre sexe. Un robot, ça peut être mieux. » Donc on voit que le truc fait son chemin. Faire l'amour avec un robot, ça peut être aujourd'hui un idéal. Et c'est-à-dire qu'il y a de la confusion. Mais déjà, c'est pourquoi je dis, on est dans le débat actuel sur la procréation, on est dans la confusion des genres. Quand vous avez des demandes d'individus qui veulent s'approprier des propriétés de l'autre sexe, je parle de, par exemple du pouvoir de gestation qu'ont les femmes, qui est revendiqué aujourd'hui par les hommes qui se l'approprient en payant une mère porteuse, ça s'appelle la GPA, c'est la location d'un utérus, ben, on est dans la négation du genre, complètement. Mais vous avez aussi la conservation des ovules des femmes. Les femmes, vous savez, ont une ménopause avant 50 ans, donc il n'y a plus d'ovules fabriqués. Les hommes, eux, ont une possibilité de faire des enfants très tardivement. Donc, par égalité des sexes, il n'y a pas de raison qu'on ne conserve pas les ovules des femmes. C'est une revendication qui est en train déjà d'être appliquée. Et bien, cette conservation des ovules, qui a donc comme motif de nier la différence entre les sexes, parce que la ménopause n'existe pas chez l'homme, elle est encore dans la confusion des genres. Et puis je vais vous citer le dernier exemple que j'ai vu la semaine dernière, qui est fabuleux. Ça se passe à New York, au début 2018, où dans un couple transgenre, un couple homosexuel, on peut dire, mais j'ai pas bien compris comment il était fabriqué, mais il y a un homme transgenre qui a subi un traitement hormonal de plusieurs mois pour pouvoir allaiter l'enfant de sa compagne, tout en gardant ses testicules. Vous voyez qu'on est dans la confusion complète. Est-ce que tout ça est indispensable? On aurait pu imaginer que la femme qui a porté l'enfant va l'allaiter, par exemple. Non, c'est trop simple. Donc il y a une volonté, il y a une espèce de jeu, de jouissance à faire cette confusion des genres qui me paraît assez dangereux et qui nous mène finalement au cyborg, donc l'union de l'homme et la machine, cyborg qui soit nécessairement asexué. Donc le transhumanisme, finalement, il provoque une indifférenciation entre l'inerte et le vivant, puisqu'il fait de tout être vivant une machine, qu'il soit humain, animal ou végétal. Il n'y a pas de différence entre l'inerte et le vivant. Il n'y a pas de différence entre l'humain et l'animal. Pour eux, c'est tout pareil. Et il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin. C'est tout ça, c'est le progrès, apparemment. Donc, ils évoquent des objectifs qui sont, à mon avis, hors d'atteinte. Le surhomme, l'immortalité, l'homme invincible, c'est hors d'atteinte. Mais ça permet de relativiser des avancées qui sont beaucoup moins spectaculaires, mais qui sont capables de nuire définitivement à notre espèce. Il y a des choses qui se développent tous les jours et qui sont masquées un peu par ces promesses complètement folles, avec des conséquences anthropologiques, civilisationnelles, qui ne sont pas évaluées. Bon, j'aurais pu continuer sur est-ce qu'on peut y échapper, mais je vous dis le mot de la fin, moi je crois qu'on ne peut pas, mais voilà. Merci.